Bonjour Olivier Martin.
Bonjour Benoît.
Bonjour, donc Olivier Martin qui est au Mouvement Phase. Avant de se lancer dans les dédales du très compliqué système de santé que vous allez nous faire comprendre.
Hein? On va essayer.
Oui, j'aimerais vous saluer puisque le Mouvement Phase s'est vu décerner le prix Solidarité ou plutôt Solidaire Mobilisation de Centraide.
Oui, tout
alors,
à fait.
Alors, bravo.
Ben merci.
Donc, c'est pour votre bon travail. Et donc, comme Centraide et plein d'autres groupes connaissent votre mouvement, j'aimerais ça que vous nous dites quand même ce qu'est le Mouvement Phase.
Mais le Mouvement Phase, c'est une action collective de promotion puis de défense collective des droits pour les personnes en situation de handicap. Donc, nous, on travaille avec l'ensemble des personnes, autant en déficience physique qu'en déficience intellectuelle ou en trouble du spectre de l'autisme, les parents, des groupes de base, des groupes régionaux. Et vraiment, le but de cette action collective-là, c'est de dynamiser puis de mobiliser les personnes en situation de handicap pour revendiquer un meilleur accès aux services publics de santé et de services sociaux. Puis, si tu me permets de revenir sur le prix Centraide de mobilisation, c'est moi, je dis toujours, c'est pas le Mouvement Phase qui l'a gagné, c'est l'ensemble des personnes qui ont participé aux actions collectives, qui sont dans des groupes communautaires de base, qui l'ensemble des parents qui se battent tous les jours pour améliorer l'accès aux services. Puis c'est ça que ce prix-là est venu souligner. Fait que c'est vraiment le travail collectif de l'ensemble d'un milieu qui a été reconnu. Puis c'est ça qu'il faut mettre de l'avant, je crois.
Bien, c'est important que vous le disiez d'emblée que c'est beaucoup de monde, la mobilisation, parce qu'on a tendance à peut-être parler des plaintes au chapitre individuel, donc des actions où on est un peu seul, tout ça. Mais vous essayez de réunir les gens, dans le fond, dans le but de changer les choses collectivement.
Oui, tout à fait, parce que quand on parle d'accès aux services en santé et services sociaux, souvent on vit les problématiques, on les vit de façon isolée, individuelle. On est sur une liste d'attente, fait qu'on est chez soi, on attend que le téléphone sonne pour nous annoncer quand est-ce qu'on va avoir un rendez-vous, quand on reçoit une nouvelle que nos heures de service à domicile vont diminuer ou que les paiements de soutien aux familles sont retardés. Bien, c'est des choses qu'on va vivre individuellement, mais il faut avoir conscience que c'est des problèmes qui sont larges, collectifs, parce que des centaines, voire des milliers de personnes qui sont dans la même situation que nous. Donc, c'est ça qu'il faut mettre aussi de l'avant, puis de se coaliser, de se mettre ensemble pour augmenter notre force, puis faire entendre notre voix.
Donc, et vous faites des appels aussi à l'action, vous dénoncez aussi des situations, des politiques. Le 1er septembre dernier, d'ailleurs, vous avez émis une lettre d'opinion qui avait pour titre « Santé, le droit des usagers de plus en plus bafoué ». Rappelez-nous les grandes lignes de cette lettre et ce que vous vouliez dénoncer à cela.
Oui, bien, cette lettre-là, ça a été comme un peu le point d'orgue là, d'une campagne de plainte collective qu'on a menée durant toute l'année passée. On était venu ici en parler à vos auditeurs. Et le but, c'était justement d'utiliser les recours qui sont prévus par la loi de la santé et des services sociaux, le régime de plainte du réseau de la santé, pour faire valoir les droits des personnes et les faire respecter. Fait que donc, le but, c'était de ramasser un nombre significatif de plaintes pour que le réseau en prennent acte et y apportent des correctifs. Et tout au long de cette campagne-là...
Vous avez quand même identifié un paradoxe dans cette campagne-là, parce qu'il n'y a pas eu tant de plaintes que ça qui ont été déposées, mais vous, Maître Ménard, qui est un grand spécialiste du droit en santé, la protectrice du citoyen le répète constamment, les coupures en santé affectent particulièrement les personnes en situation de handicap. Comment se fait-il que les gens ont peur de se plaindre individuellement?
Bien, de un, OK, on va revenir. Le nombre de plaintes qu'on a recueillies, quand on le met en perspective avec ce que le nombre de plaintes que les centres de réadaptation montréalais, par exemple, reçoivent, on avait plus de plaintes que... Que le réseau lui-même. Okay. Fait que donc, notre campagne, à ce niveau-là, on a fait aussi bien que le régime officiel.
OK, bien.
Ensuite de ça, pour ce qui est de la crainte, on peut relativiser ça en disant que par exemple, souvent, les personnes vont être réticentes à déposer une plainte pour ne pas se brouiller avec leurs intervenants parce qu'ils travaillent ou ils sont en contact direct ou fréquent avec leurs intervenants puis ils ne veulent pas nécessairement brouiller cette relation-là. Puis ça, on comprend très bien cette situation-là. Ouais. Mais par contre, les intervenants...
Parce qu'ils doivent avoir des échanges réguliers, ponctuels avec les intervenants.
Tout à fait. Ouais. Puis, il faut savoir aussi que les intervenants qui sont sur le plancher, qui travaillent avec les personnes en situation de handicap, mais eux... elles sont prises un peu dans la machine, qu'elles doivent appliquer des politiques, des directives qui descendent de la direction et du bureau du ministre.
Est-ce que vous êtes en train de dire que parfois ils sont contents que les personnes se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes?
Ils peuvent le faire eux-mêmes quand on regarde les sorties que les syndicats du réseau de la santé font, des groupes d'intervenants qui se mettent sur pied pour décrier justement le manque de ressources, le fait qu'elles sont pressurisées, qu'elles n'ont pas, même les autres professionnels parfois vont le dire, des fois peut-être plus timidement, mais que les procédures, puis qu'est-ce qu'on impose comme cadre à l'exercice des professions va avoir un impact sur les services qu'on donne à la population. Fait que c'est pas vrai que y a pas de résistance à l'intérieur. Et
Ouais.
les travailleurs, je pense que c'est des gens, les intervenantes du réseau de la santé, c'est des gens de cœur qui ont à cœur de bien faire leur travail.
Donc, grâce à vous, tout ce monde-là peut travailler ensemble aussi. Mais j'ajouterais peut-être, pour être pragmatique, vous avez quand même, au-delà des plaintes amassées, constaté un impact ou des impacts à votre campagne de plaintes.
Oui.
Quels seront-ils, en fait?
Oui, bien, il y a eu des grands impacts aussi au niveau de l'apprentissage des personnes, de leurs droits, justement.
Ouais.
Connaître, c'est une première étape, connaître nos droits qui sont dans la loi sur la santé des services sociaux. C'est une première étape pour les faire respecter. Donc, ça a été une grande avancée. Et puis aussi, le fait de sensibiliser les gens, puis d'essayer de faire bouger des choses comme la lettre qu'on a faite, qui a quand même eu un écho assez intéressant au niveau là, médiatique, puis qui a fait réagir plusieurs intervenants du réseau de la santé. Fait que ça a fait déjà comme une prise de conscience, puis c'est ça aussi qu'on veut continuer à pousser pour que la situation s'améliore.
Bien, en fait, vous nous accompagnez très bien collectivement. Vous le faites aussi parfois individuellement. J'aimerais ça que dans quelques instants, après ce magnifique pont musical, on se donne quelques trucs ensemble, comment faire cheminer ces plaintes.
Parfait.
Nous sommes avec Olivier Martin qui va nous dire un peu comment on peut porter plainte lorsqu'on a une difficulté d'accès aux services en santé, mais aussi quand on vit de la discrimination, que nos droits des usagers ne sont pas respectés. Donc, allez-y, on vous écoute.
Oui, donc il faut savoir que dans le réseau de la santé des services sociaux, il y a un régime de plainte qui nous permet de faire respecter nos droits, dont notre droit d'accès aux services, le droit de recevoir les services qui sont requis par notre État. Puis on estime que, et ce régime-là est là aussi non seulement pour porter plainte, mais aussi pour manifester notre insatisfaction. Donc,
Oui, sur la qualité du service, pas seulement quand il n'y a pas accès, tout simplement.
Exactement, tout à fait. Puis, on peut pas nécessairement besoin de recevoir des services pour porter plainte. On peut être une personne qui attend des services, qui est en attente de services,
Qui n'a pas accès,
qui
ouais.
n'a pas accès, une personne qui aurait dû recevoir des services mais qui ne l'a pas eu, ou une personne qui en a reçu dans le passé. Fait que donc,
Donc, en une minute, on
en
est
une
conscient de
minute.
tout ça, qu'est-ce qu'on fait?
Good. Donc, de un, moi, le conseil que je donne toujours aux personnes, c'est de conserver un dossier. Toutes leurs communications qu'ils ont, qu'ils reçoivent du réseau, de garder les preuves et des traces de ça. Ça peut
Chercher
tout.
le plus possible de l'écrit, dans le fond.
Exactement.
Donc,
C'est tout.
on fait tout par courriel, si
Oui,
possible.
si possible. Si possible. Ensuite de ça, quand on vit une situation problématique, on peut déjà en parler avec notre intervenante pour lui demander conseil, de l'aide et l'aviser qu'on va probablement aller déposer une plainte. Parce que le but, ce n'est pas de se plaindre ou de faire porter le chapeau à notre intervenant qui, elle, bien souvent, va appliquer des règles ou des choses qui la dépassent.
Ou des
Donc,
nouvelles normes, comme
ou
c'est
des
le cas.
nouvelles normes actuellement,
Ouais.
ou en raison de compression, on ne peut pas offrir le même degré de service que par le passé. Donc, il y a eu des coupes. Donc, on peut déposer une plainte au commissaire aux plaintes de l'établissement. Si on a seulement à aller sur le site web de notre établissement. Ensuite de ça, le commissaire va étudier la plainte, va juger de sa recevabilité.
En combien de temps il peut nous donner une réponse?
C'est 45 jours.
Ah, c'est précis même,
C'est
hein?
précis.
Donc le 46e jour, qu'est-ce qu'on fait?
Le 46e jour, donc, si on n'a pas reçu de réponse au 46e jour ou si on est insatisfait des conclusions et recommandations du commissaire, on peut aller au protecteur du citoyen qui, lui, dispose de 2 ans pour étudier la plainte et faire des recommandations.
Et ça, à ce moment-là, ça sonne, hein, parce que ce rapport-là est public éventuellement.
Oui, il est présenté à l'Assemblée nationale à chaque année. Mm-hmm. Et il peut aussi avoir des... le protecteur du citoyen peut avoir un pouvoir d'initiative pour initier des enquêtes sur des services en particulier, sur des groupes de population.
Donc, dans le fond, votre plainte à vous tout seul peut devenir quelque chose qui aide plein de monde.
Qui aide plein de monde. Mm-hmm. Comme par exemple, nous, dans la campagne de plainte, il y avait une personne qui avait déposé une plainte concernant les délais d'accès parce qu'elle était sur la liste d'attente. Et tout ça, il y a eu une révision des délais d'accès de la liste d'attente et ça a eu un effet bénéfique pour toutes les personnes qui étaient dans cet établissement-là.
Et ça, c'est souvent le mot d'ordre. Hein? On le fait pour soi, mais on le fait pour tout le monde. Mm-hmm. Merci de collectiviser ces plaintes-là, monsieur Martin. Et faut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont au sein du mouvement Phase. Vous pouvez avoir d'ailleurs de l'information en visitant le mouvement Phase. phas.org ou en les appelant aussi au 514-638-4777. Mais j'ajouterais, allez voir aussi le site du Protecteur du citoyen.
Tout à fait.
Qui est en fait repérable à protecteurducitoyen.qc.ca. Vous aviez même des exemples de plaintes qui ont eu des conclusions heureuses.
Est-ce qu'on pourrait même ajouter le site de Maître Ménard, droits en santé.com, je crois?
Oui, c'est un site extrêmement bien fait. Vous avez de l'information sur tous les types de droits en santé. Donc, recherchez Maître Ménard. Ça devrait se googler facilement. Merci beaucoup, Olivier Martin.
Merci à vous.